Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
Tête à tête, Joseph Kabila et les patrons des grandes entreprises minières opérant à RDC. Au menu de l'échange, les inquiétudes des opérateurs sur certaines dispositions du nouveau code minier, dispositions qui pourraient, selon eux, mettre en mal leur activité. Consternation à Beni. Encore 20 personnes tuées et une quinzaine d'autres, voire des bébés portés disparus. La population ne sait plus à quel sein s'est vouée et l'Ituri, leur lieu de refuge, subit le même sort. La société civile de Beni lance un cri d'alarme. Et puis, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire est notre invité ce soir. Gaston Moussemena nous parle de l'exposition sur le cycle de l'eau, lancée officiellement lundi à Kinshasa avec l'appui de l'UNICEF. Madame, Messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par cette rencontre aujourd'hui à Kinshasa entre Joseph Kabila et les patrons des grandes entreprises minières opérant en RDC. Il s'agit notamment de OneGold Resources, CEMOC International, Glencore, AngloGold Ashanti et MMG. Cet échange porte sur les inquiétudes exprimées par ces opérateurs sur certaines dispositions du nouveau code minier qui, selon eux, pourraient mettre en mal leur activité. Adopté par le Parlement depuis fin janvier, ce code minier devrait être déjà promulgué par le chef de l'État. Nous en saurons un peu plus à ce sujet avec notre reporter qui est sur place et ce sera dans nos prochaines éditions. Par ailleurs, l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami soutient que le secteur de la pêche est une richesse inestimable pour la maximisation des recettes dans cette province. L'organe délibérant l'a affirmé après le résultat du recensement effectué depuis une année par le Fonds de promotion de l'industrie sur les pêcheurs et les lacs que régorge le Haut-Lomami. Le résultat que le FPI a présenté hier à l'Assemblée provinciale atteste que la province compte plus de 65 000 pêcheurs et aussi 133 lacs répertoriés. Explication Nelly Kabena.
Selon le chargé de la commission parlementaire qui a fourni ces informations, les territoires de Malembankoulou et de Bukama ont 133 lacs, 47 en tari. Le territoire de Bukama a plus de 32 000 pêcheurs, tandis que celui de Malembankoulou en compte 36 000. L'honorable Ngoï Senga indique que le fonds de promotion pour l'industrie a financé les travaux de désensablement des lacs tari sans en indiquer le montant. Avec ces statistiques, poursuit la source, le permis de pêche, qui est une taxe provinciale, pourra générer à la province un montant de l'ordre de 499 millions de francs congolais. Il rappelle aussi qu'il y a deux ans, le service de l'agriculture, pêche et élevage des territoires de Malembankoulou et de Bukama percevait auprès de chaque pêcheur, mais sans quittance, un montant de 70 000 francs congolais comme taxe sur le permis de pêche. Il voudrait que toutes ces recettes soient canalisées pour le bien de la province. De Lubumbashi, Nelly Kabena, Radio Okapi.
Direction le Nord Kivu. La société civile de Beni s'inquiète de la résurgence des massacres dans Beni et villes et territoires. Elle dit avoir répertorié près de 20 tueries et des dizaines de disparitions, des incendies des maisons et des pillages en 48 heures seulement, des actes commis par des présumés ADF. Cette structure citoyenne en appelle encore une fois à la communauté nationale et internationale à endiguer le problème des massacres à Beni. Le président de la société civile de Beniville, Gilbert Kambale, s'exprime au micro de Christian Mapendano.
Nous sommes encore dans la consternation. Il y a eu une attaque dans le village de Mangolikene, c'est au sud-est de la ville de Beni, où 8 personnes ont été sauvagement massacrées par les présumés ADF. Plus de 10 personnes portées disparues. Ils ont même incendié des maisons. Avant cela, vous savez qu'à Eringeti, il y avait autant de morts. Aussi, dans le triangle de la mort, sur le point kilomètre 13, là également, il y a eu massacre. Donc, nous sommes à peu près à 20 personnes dans 48 heures qui ont été massacrées. Plus d'une quinzaine de portées disparues et même des bébés. Et donc c'est notre grande inquiétude dans la mesure où la population ne sait plus à quel sens se vouer. En fait, le lieu de refuge, c'était l'Ituri. Et maintenant, en Ituri aussi, les massacres ont commencé. Nous compatissons avec nos frères et sœurs de l'Ituri. C'est pourquoi nous demandons que même la communauté internationale, au travers les nouveaux mandats qu'ils vont bientôt renouveler, puisse tenir compte de cette partie du nord-est de la République démocratique du Congo.
Du côté de l'armée, on affirme que les attaques actuelles de ces rebelles sont une conséquence des opérations générales et généralisées dans la région de Beni. Pendant ce temps, en Ituri, les activités ont repris normalement dans l'ensemble de la ville de Bunia, cela après deux jours de deuil décrétés par des communautés Ema, Mambisa et Ndo Kebo du territoire de Djougou, appuyés par un groupe des cadres politiques de l'Ituri. C'était suite au massacre de 34 personnes la semaine dernière à Mazé dans le territoire de Djougou. Les organisateurs se félicite de la réussite de ces jours de deuil. Martial Kiza, reportage.
Nous sommes au boulevard de Libération, principale artère du centre-ville de Bunia. Il est 10h, boutiques, magasins, banques et stations-service ouvrent normalement leurs portes. La circulation est fluide sur toutes les artères de la ville. Des véhicules et taxis-motos sont visibles comme d'habitude. Au marché central de Bunia, l'activité est intense. Les étalages sont remplis de marchandises. Plusieurs clients font la queue depuis ce matin devant différents guichets électroniques des banques pour y tirer de l'argent après les deux jours de calvaire. Des écoles visitées ont ouvert leurs portes et les élèves sont présents dans des salles de classe. À l'université de Bunia, où ce deuil a été suivi, les activités académiques ont repris avec la poursuite des examens de la mi-session. Même les bureaux de plusieurs services publics situés dans l'enceinte du complexe administratif Tepi ont ouvert leurs portes. Les organisateurs de ces deux jours de deuil félicitent la population d'avoir répondu à leur appel qui, selon eux, visait à interpeller les autorités de mettre fin au massacre de Ndjougou. Bunia, Martial Kizapiamongo, Radio Okapi.
À Kisangani, cependant, les ex-combattants FDLR en transit au camp lieutenant-général Bauma ont quelques semaines pour se préparer à rentrer dans leur pays d'origine, le Rwanda. Un message clair leur a été adressé dans ce sens hier par une délégation mixte gouvernement MONUSCO. Leur rapatriement se fera toujours sur base du volontariat, a assuré le chef de la délégation. Toutefois, ce dernier a tenu à préciser que cette fois-ci, le gouvernement ne tolérera pas une quelconque tergiversation de la part des 822 pensionnaires de ce centre de formation des FARDC. D'autres précisions avec Jacques Moukonkolé.
Cette délégation mixte gouvernement MONUSCO avait un double message à adresser aux ex-combattants FDLR et leurs dépendants. D'après le chef de la délégation, le message clé consiste en la sensibilisation des ex-combattants pour leur retour au Rwanda. Cependant, Gilbert Likondo n'a pas précisé à quel moment interviendrait la fermeture du camp.
Ça peut se faire dans un mois, comme ça peut se faire dans un bref délai. Donc, nous n'avons pas vraiment à dire tel jour. Non, parce que vous le savez très bien, le rapatriement est volontaire.
Le second message est venu de la MONUSCO par le biais du directeur de la division DDRRR. Yann Eroué a souligné que la restriction budgétaire qui affecte la mission onusienne ne lui permettra plus de continuer à assurer leur prise en charge comme à l'accoutumée.
Avec les coupures budgétaires que la mission a souffert récemment, durant l'année passée et que nous attendons recevoir de plus durant la prochaine année fiscale, il n'y aura franchement pas la possibilité de continuer. Il n'y aura pas d'argent.
Rappelons que les ex-combattants ont toujours émis des réserves pour regagner leur pays au motif de leur sécurité incertaine. Leur porte-parole demande constamment d'être acheminés dans un autre pays si la RDC ne veut plus d'eux sur son territoire. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
À noter que le directeur de la division DD3R de la MONUSCO a souligné que les candidats au rapatriement volontaire avant la fermeture du site de transit au camp Bauma recevront des kits de réinsertion communautaire. Retour au Nord Kivu. Arrestations arbitraires, taxes et barrières illégales, ainsi que plusieurs autres formes de tracasserie. Voilà ce à quoi est soumise depuis plusieurs mois la population de Mubi, ce centre de négoce des minerais situé en groupement Utunda Sud, secteur de Wanyanga, territoire de Walikale. Ici, des agents de services de sécurité sont pointés du doigt par la société civile. Sifa Maguru nous raconte.
La société civile de Mubi dit avoir enregistré plusieurs cas d'arrestations arbitraires opérées par des agents de la PNC, de l'armée et de l'ANR en poste dans cette entité. Souvent, c'est pour des faits bénins, mais aussi des cas qui relèvent purement de la justice, dit la société civile. Ces agents créeraient des infractions qu'ils font ensuite payer par des amendes exorbitantes avant toute libération. En outre, ces agents des services de sécurité auraient érigé plusieurs barrières sur les axes principaux et ceux qui mènent vers les carrières minières. Le président de la société civile de Mubi affirme que ses services font payer chaque jour $5 américains pour chaque motocycliste qui ramène des marchandises de Bukavu, de Walika les centres et ailleurs. Ces personnes exigeraient aussi des sommes diverses aux commerçants ambulants et des boissons alcoolisées qui travaillent sur les sites. Cette situation a plusieurs fois été portée à la connaissance des autorités administratives locales. Des mesures ont été prises, mais sans que cela ne soit respecté. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Dans l'actualité, notez aussi cette annonce de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC qui présentera tout à l'heure dans la soirée devant le Conseil de sécurité le rapport sur la situation en République démocratique du Congo. Annonce faite par la porte-parole de la MONUSCO lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies aujourd'hui à Kinshasa. Florence Marshall précise que le renouvellement du mandat de la mission onusienne est une prérogative des 15 États membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Florence Marshall, dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali.
Ce soir à 21h, heure de Kinshasa, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Leila Zerougui, présentera le rapport trimestriel du secrétaire général sur la MONUSCO, lors d'une session que vous pourrez suivre sur la web télévision de l'ONU. Le rapport sera rendu public peu de temps après la présentation. Enfin, dernière information, selon le programme de travail du Conseil de sécurité, le vote pour l'adoption de la nouvelle résolution relative à la MONUSCO est prévu le 27 mars prochain.
Entre-temps, au Kasaï central, la commission électorale a entamé depuis mardi à Kananga des séances de sensibilisation sur le calendrier électoral auprès de plusieurs acteurs de la société civile et du monde politique. La première séance a consisté en un échange avec les journalistes au quartier général de la MONUSCO. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI Kasaï central explique les raisons de cette sensibilisation. Joseph Mputu au micro de Joël Bofengo.
Cette série de sensibilisations va concerner la classe politique, opposition et majorité, la société civile, parmi la société civile, les chevaliers de la plume, comme vous l'avez vu aujourd'hui, les hommes de médias que nous avons invités aujourd'hui. Nous voulons que la population du Kasaï central s'approprie ce calendrier électoral, que la population du Kasaï central soit au courant de grandes dates qui sont inscrites dans ces calendriers et que cette population sache que à la fin, nous allons aboutir aux élections qui vont se passer le 23 décembre 2018. Nous avons rencontré les journalistes aujourd'hui. Nous leur avons demandé de continuer à sensibiliser la population du Kasaï central en général, la population de la ville de Kananga autour de ce calendrier électoral.
Sachez que ces séances de sensibilisation sont organisées avec le soutien de la section électorale de la MONUSCO à Kananga. Justice, deux juges du tribunal de paix d'Assos à Kasavubu, ici à Kinshasa, comparaissent en flagrance depuis hier à la cour d'appel de la Gombe. Placés en détention préventive, ces magistrats sont accusés de falsification de jugement après avoir jugé et condamné à 2 ans d'emprisonnement 2 voleurs de téléphones mobiles. Ces magistrats sont revenus sur le jugement pour réduire le taux de la peine à 7 mois. Selon certains magistrats, cela ressemble à une tentative de faire évader les condamnés de la prison. Moyennant une corruption, les deux juges risquent la radiation et l'emprisonnement pour faux en écriture s'ils sont reconnus coupables.
Actualité Afrique Monde.
Commençons en Guinée. Plusieurs milliers de femmes vêtues de blanc, 10 000 selon les organisatrices, ont participé aujourd'hui à Conakry à une marche pour dénoncer les violences policières meurtrières lors des manifestations politiques, a constaté un journaliste de l'AFP. Des femmes du principal parti d'opposition ont répondu ainsi à l'appel de l'opposition. Les Guinéennes, vêtues de blanc, couleur de deuil, et portant pour certaines un foulard rouge sur la tête pour marquer leur détermination, arboraient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire trop de morts, l'État dort encore, Alpha rime avec crime, en référence au président guinéen Alpha Condé. Au Burkina Faso, pendant ce temps, 4 jours après le double attentat meurtrier de Ouagadougou, la procureure du Faso, Maïsa Sérémé, a fait pour la première fois hier un point sur l'enquête. C'est bien par un bâtiment annexe à la chancellerie que les assaillants ont réussi à franchir l'un des murs d'enceinte de l'ambassade de France. Après avoir tué le gendarme burkinabé de faction, ils ont aussitôt été stoppés dans leur assaut. par les gendarmes de l'ambassade soutenue par les forces burkinabées. Maïsa Sérémé ajoute que l'autre militaire burkinabé tué par les terroristes était un homme non armé qui quittait les services du consulat. Et puis, les Sierra Leonais ont commencé aujourd'hui à élire leur nouveau président, un poste qui ne devrait pas échapper à l'un des deux partis qui dominent la vie politique depuis des décennies, à moins qu'un troisième homme ne vienne bousculer la donne. Et pour terminer, l'Union européenne met en garde contre le risque d'une guerre commerciale avec les États-Unis et menace de taxer lourdement certains produits américains emblématiques si Donald Trump confirme son intention d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Le président du Conseil européen a averti aujourd'hui que les guerres commerciales étaient mauvaises et faciles à perdre en réponse au président américain qui avait argué qu'elles sont bonnes et faciles à gagner.
I don't know,